Lecture pour vous. Une émission conçue et animée par Fernand Bailhac. Tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Lecture pour vous. Auditeur. Que vous soyez ou non amateur de lecture, que vous ayez ou non le temps et le goût de lire, vous avez tous gardé, j'en suis sûr, la nostalgie de votre petite enfance, l'époque où on vous lisait des histoires et des contes avant de vous endormir. Vous vous souvenez, j'en suis sûr, de la magie de ces livres qui avaient pris la chair d'une voix familière dans une lecture rien que pour vous. Sans interdit a été écrit par un certain Edgar d'Orsay. Mais j'entends le chef de gare qui siffle le départ. Alors, en voiture, hein ? Et bon voyage en sans interdit. Résumé du chapitre précédent. Hervé, le jeune et riche exploitant forestier du Gabon, a été rapatrié en France au boulot pour soigner ses maladies tropicales. Pour écarter de ses assiduités, sa cousine Nathalie, il a monté une situation rocambolesque qui se retourne contre lui. Il est astreint à fournir à la belle Claire Lartigue des vacances de compensation. Claire, elle était défaillante dans un contrat commercial envers Hervé. Bref, à partir d'une situation très conflictuelle, ils se retrouvent tous les deux obligés de passer des vacances ensemble. Des vacances de plus en plus agréables pour tous les deux. Dans le pays catalan, la deuxième semaine se déroula très rapidement. Ils partageaient leur temps de vacances entre les excursions touristiques nombreuses que leur offrait la région, telles que la découverte de la ville de Perpignan, ou l'imposant château de Sals, ou la mystérieuse forteresse de Villefranche de Conflent, au pied du Canigou. Ils allèrent sur le plateau pyrénéen, si étrange, de fond romeux. De même, ils passèrent tout un après-midi à un concours de sardanes, à Prades. Et ils dégustèrent les vins cuits des caves de Banyuls, bien sûr. Ils dédaignaient les plages sableuses surchargées de la côte nord pour se réfugier dans les criques adorables et l'aisance de rêve des immédiats environs de Banyuls. Ils descendaient à travers les falaises de schiste rouge et mauve par des petits sentiers de chèvres qui serpentait bien souvent au milieu des vignes, agrippées à la pente au-dessus de la mer. Ils apportaient le pique-nique et un échiquier pour continuer à s'affronter et à se connaître. L'eau était cristalline et souvent assez calme. Le ciel catalan et le soleil les entouraient de sa tendresse pour parer leur corps de reflets d'or et d'ombre. Les galets et les graves mauves ne devaient pas inspirer grand monde, car il se retrouvait seul assez souvent. Hervé se tenait parfaitement sage et respectait à la lettre les conventions du contrat. Ses yeux s'imbibaient pourtant des lignes et des volumes de sa trop parfaite compagne, dans des maillots de bain charmeurs, à jouer, à nager et à converser si près de lui. Claire, de son côté, avait trouvé un équilibre d'attitude à son égard, et tout en existant naturellement dans sa splendeur évidente, elle ménageait les nerfs d'un si précieux compagnon. Elle avait bien saisi souvent dans ses regards le combat du désir et de la volonté. En fait, elle ne souhaitait pas le voir chuter avant le terme du contrat, qui représentait pour elle une période tellement heureuse. Pourtant, exactement comme lui, mais il ne se l'avouait pas. Elle attendait avec une pointe d'impatience la soirée qui les verrait revenir vers les restaurants, les dancings et les clubs. Du vrai domaine public, où, sans se concerter ni se contrarier, ils pourraient jouer les mille jeux des amoureux et laisser leur sensualité affleurer discrètement. D'une décision commune, ils ne s'embrassaient pas en public. C'était la ligne rouge de leur terrain de jeu pervers. Des authentiques fiançailles à l'ancienne, quoi. Claire commençait à discerner en Hervé un partenaire solide qui lui ouvrait des plans de projets qu'elle s'était refusée d'envisager jusqu'ici. Elle se prenait, elle aussi, à faire refluer à regret des élans et des tendresses qui battaient sa digue de volonté raisonnable, comme autant de vagues opiniâtres. Finalement, grâce aux conventions idiotes de ce contrat, elle avait pu commencer à connaître et à apprécier un homme, comme elle n'en aurait jamais eu l'occasion autrement. Une forme moderne d'amour, courtois, en quelque sorte. Chez Hervé, décidé d'aller au terme de ce qui devenait de plus en plus un défi amoureux, l'évidence de se trouver aux côtés de la femme de sa vie grandissait dans la même mesure. Mais il doutait de l'issue de leur aventure, en attribuant à son icône des qualités qui la mettaient hors de son mérite. Et il entretenait avec volupté la souffrance de ses dilemmes. Fallait-il persévérer dans cet amour fou ou abandonner tout de suite? Tous ces mêmes sentiments exaltants, obscurs et troubles, il ne pouvait pas les identifier chez l'autre, faute d'échapper aux problèmes qui les absorbaient chacun de son côté. Pourtant, tout observateur de leur comportement à la villa, au bord de la piscine, ou au repas, aurait bien ri de la touchante comédie qu'ils se donnaient. La délicieuse scène du « bonne nuit » quotidien, au moment de rejoindre leurs chambres respectives, était touchante et comique. Au début du séjour, juste quelques plaisanteries convenues. Plus tard, on commença à se faire une chaste bise sur la joue. Plus tard encore, quelques mains posées sur le bras, l'épaule, agrémentèrent le rituel. Mais c'était les regards de détresse, la tête qui se retourne furtivement quand chacun doit se résoudre à quitter le salon, qui aurait fait la joie d'un théâtre de boulevard. Et que dire des retrouvailles du matin? Pieds nus, traînaillants, en chemise et en pyjama, cheveux ébouriffés, la mine un peu brouillée d'une nuit à se retourner dans le lit, leur visage s'illuminait sitôt de la présence de l'autre, la bise augmentée d'une respiration dans les cheveux, de la vraie odeur volée de l'autre, des attentions d'un jeune couple, les biscottes beurrées, la vaisselle, où ils se frottaient un peu, mine de rien. Ils se parlaient de plus en plus, de leur vie passée, de leurs problèmes, de la santé de Hervé qui l'avait obligé à cet exil, des retours de Palu, de son nouveau travail, de l'Afrique qu'il avait vu naître et grandir. Mais il restait secret sur son aisance économique, la fortune paternelle, bref, tout ce qui aurait pu biaiser leur rapport. Elle lui confia beaucoup de son enfance, des inconvénients de sa beauté trop impériale, de ses études et de la vie pénible des affaires à Paris, de sa solitude, de son métier, de l'irruption des poupées silicone dans sa vie. Les parties d'échecs dévoilèrent leur caractère et les vrais contours de leur personnalité. Leurs sorties leur révélèrent leurs goûts et leurs refus, enfin, une partie au moins.
Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais périmando. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango,
toutes les femmes sont des roseaux. Moi je suis tango tango, que je plie dans un sanglot. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais Billy Monroe. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roseaux. Moi je suis tango tango, que je plie dans un sanglot. J'aime dire je vous aime, même si c'est un blasphème. Je me dis je t'aimerai toujours, même si ça ne dure qu'un jour. Même si je n'ai jamais eu d'humour, il ne m'en faut pas pour te faire l'amour. Je te serai toujours fidèle, comme je le suis. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais Billy Monroe. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'ai peut-être dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roses. Moi je suis tango tango, que je plie dans un sanglot. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango.
CFM. Lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Chapitre 14, la croisière amuse. Les deux dernières semaines étaient tellement réussies que l'idée de faire de la troisième un bouquet final les inquiétait chacun secrètement. Et puis, ce serait le temps de la séparation. Alors un matin, Claire se lança. « Mais c'est bien le port de Port-Vendres, la photo où l'on voit une grande coque balancée au bout d'une grue. »« Oui, c'est ça, j'ai pris la photo il y a 3 mois. »« Et vous le connaissez, ce bateau ?»« Oh oui, Claire, je le connais, c'est même le mien. » À vous ? Mais il paraît énorme, ce voilier. Vous avez un bateau pareil, vous me l'aviez pas dit. Non, en général, les filles, les femmes, ne s'intéressent pas à la plaisance. Et je ne pensais pas que vous... Ah si ! Au contraire, j'aime beaucoup la voile. Et il est armé ? Oui, oui, il est dans le bassin de Port-Vendres, prêt à naviguer, avec un équipage, évidemment. Un équipage ? Il est si grand que ça ? Oh non, 17 mètres, c'est une réduction d'une goélette franche de 23 mètres. Il s'appelle le Sipo, c'est le nom d'une essence du Gabon. Mon grand-père l'avait fait fabriquer dans un chantier naval célèbre du Cap, mais rien qu'en bois précieux et exotique. C'est une relique de famille. Mon père me l'a envoyé ici pour que je le fasse naviguer un peu. Une goélette franche 17 mètres en bois exotique, mais c'est une fusée de course, j'imagine. Venez, venez, que je vous montre des photos. Oh, ouais, on va la visiter cet après-midi, j'espère. À moins que vous... Non, non, au contraire, ça me fera plaisir. Hein. C'est mon landau, en quelque sorte, vous savez. Si j'avais su que vous aimiez les vieux gréements, on y serait allé plus tôt. Claire retrouva parmi les photos celle où elle l'avait repéré, l'indiscrète, son Hervé à la barre. C'était idéal comme conclusion de ses vacances. Il fallait à tout prix qu'elle décide à faire au moins un tour au large du Cap Kraus. Mais ce n'était pas gagné s'il fallait un équipage en plus. Finalement, ils partirent dès le milieu de la matinée vers le bassin de plaisance de Port-Vendres. Hervé n'avait pas trouvé d'anneau au ponton de plaisance pour abriter six pots. Il se reposait donc à quai, un peu plus loin, isolé des coques résines. Elle l'observa depuis le quai d'en face. Cette grande coque blanche avec ses mâts et ses baumes jaunes, son grand et son petit rouf bleu sombre, et le beaupré qui l'allongeait encore, comme un bec à une frégate de mer posée sur l'eau. Elle en tomba amoureuse avant de s'en approcher. Hervé se sentait tout ému de retrouver son bateau, et surtout de constater combien il plaisait à Claire. Elle était franchement enthousiaste, et se retenait à peine de manifester son exubérance. De près, les mâts semblaient immenses, et les deux baumes, épaisses comme des troncs dorés. Le pont, en teck incarnat, évoquait une époque révolue de construction marine et d'un luxe suranné. Les bronzes et les cuivres, en parfait état, signaient un âge béni d'avant l'inox et le titane. Drisses et écoutes neuves, lovées sur le pont, voiles carguées et abritées dans leurs étuis impeccables, tout permettait de rêver à un appareillage immédiat. Les haubans chantaient doucement dans les barres de flèches. Il lui tendit la main pour franchir les lignes de vie. « Attention, ne vous accrochez pas les pieds au chandelier. On se vite mal aux genoux en tombant. » Il lui fit les honneurs du pont, depuis le Beaupré jusqu'au poste de pilotage. De part et d'autre de la barre, merveilleuse d'ébène et de bronze, les instruments de navigation dernier cri montraient qu'il n'était pas un simple musée flottant. Elle nota, mutine, que les piles de rack, ce sont des anneaux de bois solidarisant la voile aux mâts, manquaient à l'artimon, et l'absence de pic, c'est-à-dire la vergue de corne, sur la baume d'artimon, remplacée par un enrouleur de voile moderne. Oh, elle lui dit, on ne trouve plus de personnel pour les manœuvres, pas vrai? Moi, je croyais que les golettes franches, disposées sur l'artimon, comme sur la misaine, de voiles à corne. Mais c'est que vous m'avez l'air d'en connaître en rien sur les vieux gréements. Eh bien non, Claire, en 1920, la mode était de gréer en bermudienne le mât d'artimon, d'où la facilité de cet enrouleur moderne que j'ai fait ajouter. Mais dis donc, vous savez tout ça, d'où, au fait, il y a eu l'ouvette de mer? Eh ben, dame, les messages au Glénan. J'ai un peu navigué, vous savez, en Bretagne Sud et dans la Manche. Et d'ailleurs, j'espère bien vous le montrer. Cachotière, venez m'expliquer ça dans le carré. Il ouvrit et la précéda dans la descente d'acajou qui donnait accès au carré en passant devant la cuisine à gauche et la table à cartes à droite. D'abord, le parfum si complexe. Cèdre, bergamotier, pain du Cap, cuir. Il n'y avait pas que de la pomme. Quand il tira les rideaux du petit rouf, elle réprima un sifflet d'admiration pour le luxe de ce petit salon meublé de banquettes cossues en cuir de buffle fauve, d'une vaste table d'acajou et de décorations africaines, des massacres d'antilopes et des petits masques d'ébène. Au fond de la pièce, deux portes sculptées, aux deux bois orangés et clairs, donnaient sur les deux postes avant. Hervé fit la présentation. « Votre chambre et la mienne ?» Il ne s'agissait pas de bannettes, mais bien de lits en 90. Placard équipé, lavabo à miroir vénitien, décoration raffinée de pâtes de verre 1925, tout cela faisait écho à la lampe Tango sur une étagère et complétait le confort de ses chambrettes, bien assez larges et hautes pour des personnes comme eux. Claire, en connaisseuse de voile, comprit que le yacht des parents d'Hervé correspondait à des moyens et à un train de vie qu'elle ne pouvait pas imaginer jusqu'ici. Le caractère ancien et précieux de ce petit croiseur signifiait aussi que toute cette fortune ne datait pas d'hier. Elle modula ses exclamations d'admiration pour ne pas gêner Hervé, qui ne souhaitait pas visiblement s'en prévaloir. La visite se poursuivit par les postes d'équipage superposés, pour quatre équipiers sur l'arrière, et le compartiment moteur avec son antique diesel impeccable, aperçu furtivement par la trappe. Elle était tout ébahie et ne tarissait pas d'éloges savantes et judicieuses sur ce bâtiment, réplique modeste peut-être, mais très réussie des grandes goélettes de l'âge d'or du yachting. Sur le pont, nos deux amateurs de racing discutaient performance et jauge. Vitesse aussi. Auprès, par force 6, complètement toilé, il remontait à 10 nœuds. Dans les alizés, il l'avait porté facilement à 18 nœuds une fois. Mais Sipo, c'était un retraité, un petit musée de la belle époque qu'il fallait ménager. En plus de la vivacité et de son nerf, ce petit croiseur avait beaucoup de mobilité, pour peu que l'équipage le sollicite un peu. Claire s'en hardit. Et avec une seule équipière pas trop feignante, ça donnerait quoi sur le plan d'eau de Bagnols? Hervé éclata de rire. Vous voulez dire que vous aimeriez? Il réfléchissait à toute vitesse. La perspective de se retrouver tous les deux, seul à bord. Il l'avait bien fait avec Nathalie, au moteur, à Corisco. Ça lui faisait tellement plaisir. Il ne pouvait rien refuser aux yeux de la sirène. Bon, c'est d'accord. Après tout, c'est vous qui commandez. Je ne suis que le maître à bord après la déesse. Claire répliqua. La déesse briquera le pont et prendra son quart. Mais pour ce qui est d'étarquer la drisse de grand voile, j'ai repéré quelques winches électriques bien sympathiques, mais bien camouflées. Hein, n'est-ce pas? Faut vivre avec son temps. Doucement, ma belle. Je vais, si le temps se maintient, vérifier la qualité de mon équipage sur une courte bordée d'amarinage cet après-midi. Vous êtes d'accord? Oh oui, Hervé. Merci, vous me comblez. Du coup, le pirate s'en fit claquer trois, à la mode de Bretagne, les bras autour du cou. Mais il faut que je me change un peu, ce chemisier, si fin, avec quelques embruns. Hein. Je garde le corsaire. Oh, il vous va comme une peinture neuve à la poupe d'un chasse-marée. C'est-à-dire qu'il me moule les fesses, c'est ça? Eh, plaignez-vous. Allez, je reviens avec un ciré jaune et des cuissards de travail dans des bottes. Malheureuse, ici c'est pieds nus. Vous avez appris sur des morutiers, ça se voit. Elle s'éclipsa chez le ship chandler du port pour revenir avec un pull marin, des pantalons bleus souples et un adorable bonnet rouge et blanc. Et aussi des sandales yachting et d'autres paquets à la main. Elle avait noué les cheveux en catogan, son visage rayonnait de bonheur, et les solitaires de la Transat auraient tous résilié pour la faire en double s'ils l'avaient vue à cet instant. Entre-temps, il avait tout contrôlé, ramené de l'eau fraîche et quelques victuailles. Déjà, le moteur ronronnait sa lourde marche marine. Il la prit par la taille pour la faire atterrir sur le pont. Elle riait de toutes ses dents, la tête en arrière. Bienvenue à la plaignante sur le Sipo. Les contrats civils de droit privé s'appliquent à bord au même titre que les lois maritimes, rappel du règlement. Et quel est le programme de la croisière? On fait du 15 degrés nord en traversant le Lyon jusqu'au Gros d'Agde. Et si on a de la chance, on prend le train à Narbonne pour revenir. Il y a du marin, ça nous ramènera toujours sur la côte. Elle haussa les épaules et descendit à la table à cartes. Elle reparut toute mielleuse quelques instants plus tard. Vu les courants côtiers de trois nœuds, on aurait plus vite fait à courir sur un 360 degrés et à échapper en approche finale. Hervé était soufflé. La mutinerie avant qu'on ait largué? Et vous avez complètement raison, en plus. C'était pour couper le clapot et vous chahuter un peu moins. Bon, puisque c'est ça, cap au nord. Des badauds, sans vieux, l'aidaient à l'air et ils partirent au moteur. La traversée fut une formalité sur le plan de la navigation. Quelques amers côtiers, le phare de Leucate, au Roussillon, morne pleine, de sable et de parasols ventés, l'entrée de Port-la-Nouvelle, la montagne de la Clappe, et bientôt les amers du Gros d'Agde. C'était déjà fini. Il faut dire que la goélette, presque complètement toilée, entrait dans le clapot comme un dauphin, et la moindre risée, la plus appuyée, la lançait comme une fronde. Claire était franchement heureuse et ivre de vent. Son sourire ne la quittait pas, et elle se promenait avec aisance sur le pont, comme si elle avait toujours connu ce bateau. Tantôt, elle passait de longs moments, fascinée par la pénétration de l'étrave dans les eaux verdâtres du golfe. Elle se faisait gicler d'embrun et d'écume, et son visage ruisselait de plaisir. Tantôt, elle revenait aux côtés de Hervé, si facile, si calme, à la barre, qui ne quittait son silence que pour lui demander de border la trinquette ou de choquer la voile de misaine. Elle réagissait immédiatement et avec sûreté. Un geste du pouce lui donnant validation de sa mission. Il la jaugeait sur les manœuvres, et ils prirent des bords inutiles, histoire de les multiplier. Enfin, il l'appela à la barre, et il resta à son contact pendant près d'une heure, le temps qu'elle apprivoise le pur sang qui avait le mort sensible. Et il lui faisait changer de cap et contrôler sa fidélité dans des conditions de vitesse et de courant finalement difficiles. Ce n'était pas toujours parfait, et il lui reprit la barre à quelques reprises. Elle se sentait en sécurité avec ce gars qui, en plus d'être un marin confirmé, lui confiait son plus beau jouet. Ils ne se parlaient presque pas et burent à peine, concentrés et exaltés dans cette course folle. On filait 8-10 nœuds, et ça cognait de plus en plus au retour. Hervé savait qu'il rentrerait de nuit, histoire de se rendre compte de ses capacités de navigation. Il l'envoya à la table à cartes faire le point à partir d'amères nocturnes. Elle était championne. Du coup, il la renvoya cuire des œufs au plat et du riz pilaf à la cambuse. Il accéléra et prit la nouvelle houle par travers trois quarts, de façon à secouer un peu le bateau. Le riz n'était pas cuit qu'elle ressortait toute blême de sa boîte pour se soulager par-dessus bord. Elle lui lança un regard mauvais et replongea de la cambuse. Elle sauva les œufs, mais elle avait compris. « Alors, ça vient ?»« Oui, capitaine, mais la prochaine fois, faudra mieux régler le pilote automatique. » Ils finirent sous trinquette et voile réduite, dans une grosse brise du soir, au ralenti, longuement emportée par la houle qui s'était allongée, en partageant, sur le pont, un peu du repas et beaucoup de connivence. Examen réussi. Elle avait retrouvé ses couleurs et son charme, et lui ne s'était jamais senti si heureux de sa vie. L'accostage et l'arrimage effectués, ils rangèrent le bateau et il ferma soigneusement les panneaux. Ils allaient resignaler le retour à la capitainerie, et une fois sur les quais, mal éclairés, elle lui prit le bras pour marcher à son pas. Elle le retint, lui fit face dans l'ombre, et lui servit. Alors, on n'embrasse pas son équipière ? On ne la remercie pas de lui avoir permis de prendre l'air. C'est du domaine public, si je vous assure. Et si on nous voyait dans cette ombre, on s'étonnerait pas que des amoureux se câlinent un peu, c'est ça? Elle avait rapproché son visage du sien, ou c'était lui. Il faisait noir. Ils se devinaient. Ils se serrèrent pendant un grand moment qui n'en finissait pas, la tête sur l'épaule de l'autre, les yeux fermés, et respirant leur odeur de sel et de jeunesse.
CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h.
Chapitre 15, scène torride. Le lendemain matin, de bonne heure, branle-bas de combat à la villa. On avait commencé par une croisière foutue, on finirait par une croisière réussie. Mais on avait 5 jours à peine. Si on ne pouvait pas la jouer tour du monde en 60 jours, il faudrait se contenter de la côte catalane jusqu'à Barcelone. C'était d'ailleurs une côte rocheuse magnifique, pleine de caps, de criques, on dit des calas là-bas, et de plages secrètes. Sous le soleil d'août, la mer est chaude, animée et claire. Il n'y a pas de marée, et ça ne pue pas les varecs, tout juste l'ombre solaire que déversent ces marées blondes tous les étés sur la côte. On y trouve les vieux ports phéniciens, grecs, et les Romains ont développé l'immobilier avant les Germains. C'est ce qu'Hervé t'expliquait à Claire, à la véranda, devant les cartes sur lesquelles il se penchait. Surtout Claire, et son dernier bikini brésilien, annoué autour du cou. En voilà une calanque bien douce, entourée de 2 promontoires orgueilleux très dégagés, où Hervé aurait bien aimé relâcher, mais qu'il n'arrivait pas à localiser sur la carte. Ceci étant, la fébrilité de cette croisière les gagnait à tous les deux. Ils se partagèrent les préparatifs. À lui, les vérifications techniques de l'armement du bateau, à elle, les avitaillements pour une semaine. Il fallait une garde-robe adaptée et variée, compte tenu des escales et des sorties à terre qu'il pourrait faire. Il fallait penser à la plongée, au coup de soleil, à la pharmacie de bord, aux photos. La météo fut consultée sur 5 jours. La fin d'août était propice aux orages et au passage de dépression. Hervé déposa un plan de voyage à la capitainerie et vérifia leurs papiers. Question finance, Claire voulait participer. Mais Hervé repoussa l'offre au nom du respect du contrat. Ils partirent la veille du 15 août au matin, au milieu d'une grande animation à pourvendre. Sur les quais, les promeneurs et les amateurs de voile s'étaient rassemblés pour voir s'éloigner une des plus belles unités de la plaisance du port. Afin de ne pas compliquer leur sortie au milieu de beaucoup d'embarcations de toute taille, ils sortiraient au moteur, et toileraient ensuite à l'abri des reporters improvisés. Les badauds les plus hardis voulaient se faire photographier devant la belle coque, avec si possible Claire, en premier plan de carène. Beaucoup attendaient l'arrivée du reste de l'équipage, et ne pouvaient s'imaginer que les 2 tourtereaux allaient mener seuls un bâtiment pareil. Ils croisèrent au large de la côte française, puis se rapprochèrent du cap de Creus, en ville de Cadaqués, la baie de Rosas et le site d'Ampurias, ville renommée de l'Empire romain. Finalement, ils mouillèrent à la hauteur d'Estartite. Ils y nagèrent dans des eaux dignes des lagons du Pacifique. Le bateau se comportait à merveille dans ce petit temps et cette mer sereine. Le pilote automatique fut mis à contribution, d'ailleurs autant pour permettre à Hervé de passer de bons moments de farniente aux côtés de Claire que pour économiser leurs forces. Sur l'eau, ils bronzaient beaucoup plus vite. Ils n'avaient qu'un minimum de manœuvres à effectuer dans ces conditions de villégiature navigante. Claire avait investi complètement le yacht et commencé à en connaître la plupart des recoins. La petite cambuse avait été rangée suivant ses principes, signe que Hervé ne se sentait pas dépossédé de son chez lui par son invité, et il acceptait fort bien à son bord. Les passagers des nombreuses embarcations à voile où les vedettes et Chris Kraft qui les croisaient ne pouvaient s'empêcher d'envier le beau couple qui prenait ses aises sur ce chef-d'œuvre navigant. Claire et Hervé avaient fini par se lasser, à force de répondre au bonjour dans toutes les langues et aux grands gestes de sympathie qui leur étaient adressés. Cette admiration confirmait Claire dans le sentiment qu'elle vivait quelque chose d'exceptionnel avec un garçon qui le devenait de plus en plus à ses yeux. Parce que vraiment, non seulement il était très séduisant physiquement, mais surtout il témoignait d'un caractère généreux, passionné et loyal, simple à vivre, pas orgueilleux de sa condition et d'une parfaite éducation. Il était doté, vraisemblablement, d'un sens de la fidélité remarquable à en juger par sa rigoureuse application du « contrat » impossible qui les réunissait. Il ne parlait jamais de conquête féminine et semblait avoir une opinion bien arrêtée sur le type de femme qui lui conviendrait. Nathalie en savait quelque chose. Claire pouvait ainsi passer des moments entiers à s'énumérer les mille qualités de ce prince charmant de vacances, dont l'intelligence, la sensibilité, la culture, la... Claire, vous voulez boire quelque chose? Tenez, prenez les jumelles, il y a un joli catch à tribord par vent arrière. Quel chic type quand même, après ce que je lui ai fait. Elle est sortie de menace. C'est pas possible ce que je lui ai fait. Il faudra qu'un jour je lui en demande pardon. C'est indigne. Quand il nageait en tuba et masque, il s'amusait à se faire de grands en se montrant des poissons et des coquillages, et il descendait dans les fonds, leur corps se frôlant comme des girelles. De vrais enfants, pris de fou rire et de complicité, quand il s'agissait de se moquer de l'équipage d'un hors-bord immaculé et rugissant, tassant durement les bourrelets d'un vieux couple de Richard Grassouillet, casquette d'amiral et foulard Hermès au vent, l'air blasé de tout. Hervé eut vraiment une certitude un soir sur les sentiments qui le dévoraient. Dans le carré, Claire avait mis la table avec deux bougies sur la nappe et s'activait à une bouillabaisse odorante, ainsi que la préparation d'un petit gâteau aux fruits, ce qui n'était quand même pas très facile dans cet endroit. Hervé, depuis la banquette, la voyait s'affairer en chantonnant devant sa marmite. Le petit tablier, court blanc, noué autour du cou et à la taille, qu'elle portait par-dessus son maillot de bain, était, faut dire, du plus bel effet. À un moment, elle se tourna et capta son regard intéressé. Elle se rembrunit subitement, traversa le carré, décidée, vers sa chambre, et revint quelques instants après, le tablier ajusté sur une belle robe verte, les cheveux bien tirés en arrière, un bijou autour du cou. Laissant ses casseroles, elle s'assit en face et lui dit, bien droite et un peu triste, « Hervé, j'ai des excuses à vous présenter, pour ma tenue, ou mon absence de tenue en ce lieu, à ce moment. J'ai failli oublier que je suis votre invité. » Très chanceuse et très insouciante, dans votre maison de famille. Si votre père me voyait accoutré ainsi, tiens, comme une poupée de silicone, il aurait une bien triste opinion de moi, et de vous peut-être, de tolérer cette négligence vulgaire. Ce n'est pas la tenue d'une maîtresse de maison, ni d'une soubrette d'ailleurs. Hervé, je veux vous honorer comme vous m'honorez, avec respect et courtoisie. Et c'est sûr qu'on a beau passer la journée sur le pont ensemble, dans une semi-nudité, ce que le soleil excuse, l'intimité de ce salon ne le tolère pas. J'y veillerai désormais Hervé. Pardon. Hervé était abasourdi et soulagé. Le malaise qu'il ressentait inconsciemment et qui se refusait à réaliser, par lâcheté devant un si piquant spectacle, elle venait d'en faire le bilan et s'en mortifiait toute seule. Alors qu'elle repartait vers le fourneau, il la retint d'une main douce par le poignet. « Claire, il se peut qu'il y ait de plus belles femmes que vous, en robe, en maillot ou en tablier, peu importe, mais je ne crois pas qu'il y ait de meilleures filles que vous, pour la qualité de ce que vous venez de me dire, de vos sentiments et de votre sensibilité. Claire, je vous excuse d'autant que mon regard sur vous fait complètement partie de ce qu'il y a à pardonner. J'ai contribué aux troubles de situation. » Et je vous demande pardon à mon tour. Ils se serrèrent les mains avec chaleur. Leurs yeux se mouillèrent du peu de lumière qui filtrait du rouf. Il alla dans sa chambre passer un costume blanc avec une cravate et alluma les bougies. La bouillabaisse fut très goûteuse et le gâteau bien arrosé. Et en plus, c'était une bonne cuisinière, la surdouée. Ah, il faudrait bien que ce soit elle, si l'icône voulait, de lui, un jour. On dirait bien qu'Hervé et Claire se plaisent de plus en plus dans cette intimité obligée. Finiront-ils leurs vacances sans qu'un événement ne vienne leur révéler leurs vrais sentiments ? C'est ce que vous saurez en écoutant le prochain et dernier épisode de Silicone Voulait. Sur CFM, le mardi à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Vous pouvez aussi réécoutez tous ces épisodes sur cfmradio.fr à la rubrique Lecture pour vous. Je rappelle que les illustrations musicales de cet épisode étaient Guy Marchand chantant Tango Tango et un extrait de Sherazade de Rimsky-Korsakov. Bye bye. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de cet épisode. Vous retrouverez la suite des aventures de Michel Prunier, le retraité de 69 ans, miraculé du CHU de Rangueil, mardi prochain à 22h. Saura-t-il mettre à profit les quelques années de bonus que la vie lui a confiées ? Saura-t-il oublier ses souvenirs de résistance pour vivre un peu dans le présent ? À la semaine prochaine. Les auditeurs qui auraient pris l'épisode en cours peuvent le réécouter dimanche à 15h et le conseiller à leurs amis. Alors à bientôt. De toute façon, cette émission est en balado-diffusion sur cfmradio.fr, rubrique Lecture pour vous. Bye bye.